l'organisation des types d'études, des formations. Comment faire quand on ne sait pas quoi faire ?
Ça, c'est important de le rappeler.
Not made to walk the streets alone.
Bonjour et bienvenue dans ce spécial Instant Jeune sur l'autre radio. Effectivement, l'émission d'aujourd'hui est un peu spéciale parce que je suis accompagnée de quatre jeunes femmes en chantier citoyen argent de poche, Leïla, Lucie, Mathilde et Romane. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un dispositif dans lequel les jeunes Mayennais et Mayennaises participent à des chantiers pour améliorer le cadre de vie de leur territoire et gagner un peu de sous, d'où le nom argent de poche. Si vous avez entre 16 et 19 ans révolus et que vous résidez en Mayenne, vous pouvez peut-être, vous aussi, participer au chantier argent de poche qu'organise votre mairie. Pour ce faire, il faut s'adresser à cette dernière. Ce n'est pas bénévole, puisque cet engagement est récompensé par une gratification de 5 € de l'heure, ce qui fera pour les filles, à la fin de la semaine, 75 € d'argent de poche. Ces chantiers de quelques demi-journées pendant les vacances scolaires permettent de participer à la vie de votre territoire, que ce soit en fabriquant du mobilier en palette, en réalisant une fresque, en aménageant une course solidaire, en entretenant un cimetière, c'est ce qu'ont fait certaines des filles qui sont présentes aujourd'hui, en animant au sein d'un accueil de loisirs ou en accompagnant les seniors à la prise en main de leur outil informatique, et même en produisant du contenu pour l'émission L'Instant Jeune. Vous l'aurez compris, les missions sont variées et la liste est non exhaustive. C'est l'occasion pour vous de découvrir un environnement professionnel, des techniques et de rendre service à la collectivité, d'où le nom de chantier citoyen. Vous le savez désormais, cette émission s'adresse aux jeunes. Néanmoins, je trouve que dans la plupart des sphères de nos vies, nous parlons des personnes ou en leur nom au lieu de les laisser prendre la parole elles-mêmes. Bien souvent, c'est la porte ouverte à un bon nombre de stéréotypes et de préjugés. Nous avons voulu nous en rendre compte par nous-mêmes. Nous sommes donc allés dans les rues de la ville de Mayenne, en Mayenne où coule la Mayenne, pour interroger les habitants et les habitantes sur ce qu'ils et elles pensent des jeunes aujourd'hui. Alors, ça dit quoi ?
Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez des jeunes d'aujourd'hui ?
Les jeunes d'aujourd'hui, moi je vois qu'ils sont stables, mais bon, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui n'arrivent pas à trouver de travail, c'est un peu difficile.
La jeunesse, c'est une jeunesse de pleine vie. Il faut que la jeunesse puisse évoluer dans la tranquillité et puis la bonté, déjà.
Qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse d'aujourd'hui ?
Oh, les pauvres, je les plains avec le Covid. Mais sinon, c'est une belle époque. Reste à ce qu'ils trouvent leurs écoles et puis leur travail. Et puis qu'ils soient heureux.
Elle est assez particulière parce qu'elle est assez, d'une certaine manière, vulnérable d'un point de vue écologique, économique, etc. Et d'un autre côté, je la trouve très, très difficile à cerner. Enfin, elle a une tendance aussi à s'organiser elle-même, à créer ses propres réseaux. Et elle est probablement aussi très consciente, notamment des enjeux qui la concernent.
Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez des jeunes d'aujourd'hui ?
Je les pense sensibles à la question environnementale, je les pense davantage soucieux de leur avenir qu'à d'autres époques. Je pense qu'ils ont besoin de donner du sens à pas mal de choses.
Les jeunes d'aujourd'hui sont libres. Libres dans le sens où maintenant on a vraiment envie de mettre en avant l'expression de soi. La quête identitaire, savoir qui on est, sur que ce soit la sexualité, nos envies, nos goûts et nos aspirations. Avant, il y avait beaucoup de questions qui étaient taboues et on n'osait pas s'exprimer et en faire part à tout le monde. Je dirais que ce sont des mutants.
C'est l'avenir et malheureusement, on ne prend pas suffisamment en compte les jeunes et leur avis et leurs opinions.
Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez des jeunes d'aujourd'hui ?
Pour moi, c'est comme dans le temps, hein. Il y a des jeunes qui sont polis, qui sont bien, et puis d'autres qui sont pas bien.
Et c'est quoi les jeunes pas bien ?
Ceux qui savent pas vous dire bonjour.
Il y en a, ils sont raisonnables et d'autres non. Enfin, parce qu'il y en a, ils peuvent très bien fumer et tout, alors qu'il y en a d'autres qui peuvent jamais toucher à la drogue ou à la cigarette.
La nouvelle génération est très feignante, je trouve.
Et par rapport à votre jeunesse, les jeunes d'aujourd'hui sont comment ?
Trop gâtés. Trop gâtés. Voilà. Moi, dans ma jeunesse, on était dressés et que là, il y a certaines personnes, les enfants ne les dressent pas du tout.
J'avais du travail pratiquement tous les jours au pied de la porte, quoi. Bon, maintenant, je n'avais pas de diplôme, donc j'ai fait quand même pas mal de petits boulots. Que vous, hélas, vous allez galérer, mettre des CV, CV. Moi, je ne sais pas ce que c'est de faire un CV.
Gérald est encore plus au taquet sur tout ce qui va être technologique, etc. Quoique, je pense qu'ils sont de plus en plus lucides. Et je pense qu'en fait, ils sont en capacité de savoir quand, comment dire, à cerner les outils, à les utiliser. Il peut y avoir des déviances, notamment chez les adultes, de plus en plus. Et chose que la jeunesse, en fait, rencontre moins, je trouve.
Non, elle est plus compliquée aujourd'hui, je crois. Réellement, et... Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a des clivages qui se font entre générations. Et je pense qu'on ne porte pas assez d'ambition sur les jeunesses. Et, voire même parfois, on les considère pas suffisamment à hauteur de leur capacité de voir le monde dans lequel on est. On ne prend pas suffisamment en compte leur expression, leur parole.
Ils n'ont pas la même cadence, ils ne sont pas attentifs au même niveau, ils sont sur les téléphones. Voilà. Ce n'est pas de la fainéantise, ils sont ailleurs.
Non, on était peut-être... Pas feignant, mais bah on était comme vous, hein, la fête, ça on l'a fait hein, aussi.
On a quel âge quand on est jeune ?
Ah, mais on est tout le temps jeune.
On va dire 20 ans, 21 ans, c'est encore jeune ça.
Pour vous, ils ont quel âge les jeunes d'aujourd'hui ?
Ah, ça c'est une bonne question, 22, 23, moins de 22, 23. Après c'est bon, normalement ils sont plus censés être jeunes, ils sont censés être motivés, dynamiques.
Ça joue dans la tête uniquement.
Bah ça dépend quelle sorte de jeunes on parle. Il y a les jeunes enfants, il y a les jeunes ados, il y a les jeunes adultes. Il y a plein de jeunes.
Et pour vous, c'est à quel âge qu'on est jeune ?
34 ans, on est peut-être encore jeune.
Moi, je leur donnerais entre 15 et 25 ans. Ouais.
Oui, à 25 ans, on est encore jeune ?
Oui, même après. Même après, ma petite dame, dites-vous bien que même à 45 ans, on est encore jeune, quand on a beau caractère, qu'on est souriante, pour moi, ça fait partie de la jeunesse. Hein. Si vous faites une mauvaise tête à tout le monde à 25 ans, pour moi, vous n'êtes plus jeune.
Être jeune, bah, ça va de 7. Être un jeune, ce qu'on appelle un jeune, bah, moi, je dirais bien que ça va de 7 à 18 ans. De 7 à 18 ans.
Ouais, fin, ouais. Enfin, 7, c'est peut-être un peu tôt. Enfin, moi, je dirais plus 9, 10.
Même à 80 ans, tout dépend de l'objectif qu'on veut se faire. Il faut toujours avoir des projets pour rester le plus jeune possible.
Qu'ils soient de bons ou de mauvais jeunes, les 15-29 ans étaient 11,7 millions en France en janvier 2019. 11,7 millions des Français et des Françaises ont entre 15 et 29 ans. Et bien moi, comme certains l'ont dit, je trouve qu'ils et elles sont sous-représentés ou peu valorisés. On le voit là, dans certaines bouches, dans les médias, dans la politique. C'est pour ça qu'il est bon de voir une majorité de personnes mineures autour de cette table, parce que les filles ici présentes, elles ont 17 ans. Et elles sont lycéennes ou étudiantes. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe pour les lycéens, les lycéennes, les étudiants, les étudiantes en ce mois de novembre 2021 ? Et si on laissait Mathilde et Romane nous en parler d'elles-mêmes ?
On a tous été voir au moins une fois dans notre vie une conseillère d'orientation. Et moi, perso, ça ressemblait à ça. Bonjour, asseyez-vous. On va directement commencer par un quiz d'orientation. Dans un travail de groupe, vous êtes plutôt leader ou suiveur ?
Je dirais plutôt leader.
Je note. Ensuite, vous êtes team chocolatine ou pain au chocolat ?
Chocolatine.
Vous mouillez votre brosse à dents avant ou après le dentifrice ?
Les deux.
Le lait avant ou après les céréales ?
A few moments later.
Du coup, vous serez verbicuciste. Verbicuciste, super.
C'est quoi ?
Vous irez regarder sur l'internet quand vous serez chez vous. On a déjà tous entendu ce genre d'écho. Mais on va pas se mentir, une conseillère d'orientation, c'est toujours plus utile qu'un quiz internet où tu as jamais la même réponse et parfois tu n'as même pas de réponse à la fin. On pourrait aussi vous parler des forums d'orientation. Vous savez, le truc qu'on vous rabâche tout au long de vos années lycée et collège. On va pas se mentir, c'est chiant. À la place, on va vous faire découvrir un lieu ouvert à tous, proche de chez vous, dont on ne parle jamais, les Infojeunes. On retrouve ces établissements à Laval, Évron, Mayenne, Goron, Saint-Berthevin, ainsi qu'à Mélédumène. On y rencontre des professionnels à notre écoute sur tous les sujets qui nous concernent, ainsi qu'une aide pour trouver notre orientation. C'est en tout plus de 3 millions de jeunes accueillis chaque année dans les 1300 structures du réseau Infojeunes. Ils peuvent également nous aider après le lycée dans notre vie étudiante. Tiens, en fait, toi, Mathilde, t'es étudiante. Je me demandais, du coup, c'est quoi la vie étudiante ?
Bah écoute, je suis devenue pâteau-voir.
C'est quoi ça ? Encore un métier chelou comme verbicuciste ?
Bah écoute, lundi, pâte, mardi, pâtes, mercredi, pâtes. Bref, je mange que des pâtes. Sinon, j'ai appris à faire la vaisselle, ainsi que le fonctionnement d'une machine à laver.
C'est vrai que vous faites des soirées tous les soirs ?
En vrai, oui. Mais même si la soirée d'intégration a été annulée à cause du Covid, les deuxièmes années de mon BTS ont organisé nous ont invités au bar pour qu'on puisse les rencontrer. Il y avait même certains profs.
Qu'est-ce qui a changé par rapport au lycée ?
On doit se débrouiller seul quand on est malade pour prendre rendez-vous chez le médecin, pour faire ses courses, gérer son budget, le stress de prendre un nouveau train quand le tien est annulé. En gros, gérer les imprévus du quotidien.
Et devoir quitter sa famille, c'est compliqué ? Tu l'as vécu comment ?
Moi, ça va, je l'ai bien vécu. C'était quand même long car je rentrais pas le week-end. Mais pour certains, c'est beaucoup plus compliqué d'être éloigné de sa famille. Après, personnellement, je me suis fait des amis vite. Du coup, ça a été plus simple pour s'adapter.
Ah ouais, ok. Et est-ce que tu bosses beaucoup plus qu'au lycée ?
J'étais en terminale générale l'année dernière et actuellement, du coup, je suis en BTS. Donc, j'ai pas l'impression de bosser beaucoup plus. Mais ça dépend dans quoi tu t'orientes. J'ai des amis en prépa médecine qui ont beaucoup, beaucoup de boulot.
Et si tu avais des conseils à donner pour les prochains étudiants, ce serait quoi ?
En début d'année, si vous avez des soirées d'intégration qui sont organisées, allez-y, ça permet de faire des rencontres dès le début de l'année et du coup de s'intégrer plus facilement et de ne pas se retrouver seul. Je vous conseille également de faire des repas partagés ou des trucs comme ça pour faire des économies. Et surtout, ne jamais emmener sa carte bleue en soirée.
Merci Mathilde, je me sens plus rassurée pour l'année prochaine.
Merci les filles. Nous enregistrons l'émission dans un endroit bien spécial aujourd'hui. Nous sommes au Forum des initiatives, organisé par le réseau des acteurs jeunesse. C'est plus d'une quinzaine de structures jeunesse présentes aux Ondines à changer à l'occasion de ce temps fort. La journée idéale pour aller à la pêche aux informations ou même écouter des artistes locaux. C'est ainsi que nous accueillons maintenant à notre table une professionnelle du XAPA. Leïla et Mathilde, c'est à vous.
Bonjour Amélie, Géraldine.
Bonjour.
Du coup, vous êtes au XAPA, qu'est-ce que c'est ?
Alors le XAPA, c'est le centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Donc le XAPA 53, c'est qu'on est sur tout le département de la Mayenne. C'est-à-dire que notre mission principale, c'est d'accompagner les personnes qui ont des conduites addictives avec produits et sans produits. Donc, c'est-à-dire que ça peut être l'alcool, ça peut être le tabac, comme ça peut être aussi les jeux vidéo, les jeux d'hasard et d'argent, les troubles du comportement alimentaire. Et donc, on a une équipe de professionnels qui sont éducateurs, psychologues, infirmiers, médecins et secrétaires aussi, très important, qui veulent être le premier accueil du patient.
Okay. Donc, c'est peut-être important de préciser que dans cet accueil, on va accueillir les gens qui ont... le problème de consommation ou d'addiction, mais qu'on accueille aussi leur entourage. Donc ils peuvent être vus soit de manière séparée, mais on peut aussi parfois créer des temps pour qu'ils se rencontrent ensemble.
D'accord. Et du coup, quelle est l'addiction que vous retrouvez le plus ?
Eh ben, l'addiction qu'on va retrouver le plus, ça va être l'alcool, effectivement. On va avoir aussi beaucoup en lien avec le tabac et les opiacés, donc tout ce qui va être drogue.
D'accord. Qu'est-ce que vous avez remarqué ? Est-ce que vous avez remarqué une augmentation des personnes devenues addictes suite au Covid ?
Alors, une augmentation, c'est clair que le contexte du Covid a pu créer des difficultés. Et donc, on a rencontré des difficultés du style des couples qui pouvaient se retrouver ensemble et de manière, j'ai envie de dire, durable, puisqu'ils n'allaient plus au travail. Et les consommations ont pu augmenter et parfois générer de plus en plus de problèmes de violence au sein du couple. Après, sur la question jeune, il y a eu aussi un mal-être de se retrouver seul, isolé, sans ses amis, à faire des cours à distance. Ça a pu être compliqué chez certains. On a repéré qu'il y a eu aussi sûrement une augmentation des troubles de conduite alimentaire, surtout chez les jeunes filles. Et puis voilà, un mal-être. Après, des situations un peu exceptionnelles, mais des parents qui avaient aussi leurs enfants qui étaient placés, il y a eu une interruption des droits de visite, donc ça a été compliqué de se dire qu'on ne pouvait plus voir ses enfants pendant cette période-là. Et dans une nouvelle mode d'accompagner, on devait sortir par exemple avec une attestation de déplacement et pour une partie de notre population qui n'a ni ordinateur ni accès au numérique, ça a été compliqué de pouvoir se renseigner et de pouvoir avoir accès à tout ça, quoi.
Est-ce que c'est qu'une question de volonté ou de fréquentation pour tomber dans une addiction ?
Alors, c'est beaucoup plus large que ça. C'est vrai que l'addiction, on va parler d'addiction quand la personne a perdu la liberté de s'abstenir. Et il faut faire une évaluation globale de la situation de la personne. C'est pas simplement une histoire de combien je consomme, est-ce que c'est tous les jours ou pas. C'est qu'il faut aussi regarder comment ça se passe dans la famille, comment je me sens, est-ce que j'ai confiance en moi, est-ce que le stress intervient. Ce serait trop réducteur de regarder que par la lorgnette du produit consommé ou du comportement. Mmh. Il faut vraiment être vigilant à la situation globale de la personne. Donc ça va être aspect psychologique, aspect familiaux, aspect environnementaux, aspect physique, et puis les consommations aussi forcément.
D'accord. Et du coup, dans votre structure, qu'est-ce qui est mis en place pour aider les personnes ayant une addiction ?
Alors, pas mal de choses. Il peut y avoir en premier lieu des entretiens réalisés par des professionnels différents. Donc on peut en voir un, mais on peut aussi en voir plusieurs. Il y a des entretiens de couple ou familiaux, mais on a aussi tout un tas de supports d'activités collectives, des ateliers marge, des ateliers d'expression, des projets plein air, des groupes de parole pour certaines thématiques. Suivant les sites sur lesquels où on va, par exemple sur l'équipe de Mayenne, ils ont développé tout un pôle d'hydrothérapie. Donc on propose une approche corporelle à base de massages, de soins du corps, pour aussi retrouver confiance en soi, et puis prendre soin de soi autrement qu'en consommant.
Et puis on va avoir aussi une socio-esthéticienne qui va accompagner les patients dans tout ce qui va être le rapport au corps, l'estime de soi, la confiance en soi. On va aussi développer bientôt un programme de soutien à la parentalité où on va accueillir des patients, et parents qui du coup sont consommateurs, et donc d'accueillir aussi leurs enfants sur un programme de plusieurs ateliers.
D'accord. Qu'est-ce qui cause les addictions ?
Plein de choses. ça peut être des questions, on va dire. Souvent, on peut entendre des gens stressés, des gens qui n'ont pas confiance en eux, des problèmes familiaux, des traumatismes liés à l'enfance, des problèmes relationnels. J'ai envie de dire, tout ce qui peut poser difficulté dans la vie peut à un moment donné amener une personne à se dire tiens, un comportement ou une consommation peut m'aider à alléger mon problème. Et quand on résout un problème au moyen d'un produit ou d'un comportement, il peut y avoir le risque à un moment donné de ne plus pouvoir s'en passer.
D'accord. Comment accompagner un proche qui est addict ?
Alors, comment accompagner dans le sens... c'est ça, c'est plutôt quand on accueille quelqu'un de l'entourage d'une personne qui consomme, comment on l'accompagne ? Déjà, on l'écoute, parce que c'est souvent douloureux, hein, une personne qui consomme a ses difficultés, mais la personne qui vit avec et qui l'accompagne au quotidien, est un peu perdue. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois surveiller ses consommations ? Est-ce que je dois cacher toutes ses bouteilles ? Est-ce que je dois lui dire d'aller se soigner ? Alors, forcément qu'il faut être... aidant, accompagnant, mais il faut aussi rester à sa place de conjoint, d'enfant ou de parent, et surtout ne pas s'oublier, parce que le risque, à un moment donné, pour l'entourage, c'est d'être focalisé qu'autour de la problématique alcool et d'oublier que la personne avec qui on vit a aussi des qualités, a aussi des choses à partager au sein de sa famille et au sein du couple, et qu'à un moment donné, quand c'est devenu compliqué, effectivement, il vaut mieux aller se faire aider, rencontrer des gens peut-être qui vivent la même chose, parce que nous, on est une structure de soins en ambulatoire, mais il y a aussi en Mayenne des groupes d'entraide qui sont importants, il y a aussi des lieux de cure. Donc j'ai envie de dire, c'est de trouver autour de soi des gens qui vont pouvoir nous aider, alors soit en parlant directement de la problématique, mais aussi dans l'idée de ne pas s'oublier, c'est peut-être faire du lien avec des associations pour s'occuper, faire de la sophrologie, éviter de s'isoler. Voilà.
Alors du coup, est-ce qu'on peut s'en sortir seul quand on est addict ?
Oui, parce que je ne voudrais pas mettre de côté que c'est possible, mais je pense que de se faire aider, c'est quand même un plus.
D'accord.
Du coup, si on souhaite vous contacter, comment on peut vous retrouver ?
Alors, on a un site internet. Alors, je ne vais pas avoir moi les coordonnées téléphoniques en tête, mais on a un site internet qui est le xapa53.fr. Il est possible de nous trouver aussi sur Google. Si vous tapez addictologie 53, vous arriverez à trouver nos coordonnées. Donc, on est présent à l'échelle départementale. Donc, c'est-à-dire qu'on a un site de consultation à Laval, à Château-Gontier, à Mayenne. Et on va avoir des consultations avancées à Évron et à Segré. Et aussi, on va avoir une équipe mobile en addictologie, donc qui va venir au domicile des patients qui ont le plus de difficultés.
Donc, on peut appeler directement au secrétariat de chaque site, mm-hmm. appeler le secrétariat de Château-Gontier, celui de Mayenne ou de Laval, ou d'appeler le service de coordination qui coordonne l'ensemble de nos structures au 02 43 590 690.
Merci.
D'accord, merci beaucoup.
Merci.
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 Beaucoup.
Merci.
Au revoir. Alors, dans quelques instants, Stromae Santé.
Excellent. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert. Quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater. Toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Toi la fête tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas. Pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
De retour dans l'émission de l'Instant Jeune avec mes journalistes et chroniqueuses de choc, Leïla, Lucie, Mathilde et Romane. Nous sommes actuellement en présence de membres du CPIE. Lucie et Romane, je vous laisse la main pour les présenter.
Christine, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est les CPIE ?
Alors CPIE, ça veut dire Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. C'est un petit peu barbare comme ça. En fait, CPIE, c'est un réseau national d'associations. C'est un label. Donc à partir du moment où on a ce label, on rentre dans un réseau. Et les CPIE sont des initiateurs d'action en faveur de l'environnement.
Est-ce que vous travaillez avec des collectivités territoriales ou des entreprises ?
Alors oui, les collectivités territoriales, en effet, avec une communauté, tout, on va dire toutes les communautés de communes du territoire, du département. Ça peut être des communes, ça peut être des entreprises, des associations, voilà. On n'est pas fermé.
Est-ce que vous savez combien de personnes sont bénévoles au sein des CPIE ?
Alors, au sein des CPIE au niveau national, j'en ai aucune idée. Au niveau de notre CPIE à nous, on a à peu près 200 adhérents, je crois, à l'année. Et puis, en bénévolat, ça doit être une cinquantaine de bénévoles sur l'année.
Depuis combien de vous êtes-vous basé à Mayenne, en Mayenne ?
Je n'ai plus la date exacte de la création de l'association, mais l'association a, on va dire, presque 15 ans maintenant. Et on est basé à Mayenne.
Ok. Quelles sont les actions d'un CPIE ?
On va intervenir sur trois grandes thématiques. L'éducation et la sensibilisation à l'environnement, donc avec le tout public. L'accompagnement des collectivités ou des entreprises privées sur des actions en faveur de l'environnement. Et puis la partie études de l'environnement.
Par exemple, en Mayenne ou à Mayenne, du coup, quelles actions avez-vous menées ou allez-vous mener ?
Alors, moi, je suis éducatrice environnement, donc j'interviens essentiellement dans l'éducation, dans la sensibilisation. Donc, je vais intervenir, par exemple, avec des enfants et des jeunes sur des activités périscolaires le mercredi après-midi ou le samedi matin, où là, on va aller découvrir la nature, découvrir les enjeux de protection, de préservation de l'environnement, etc. Je peux intervenir dans les écoles aussi, donc de la maternelle aux écoles supérieures, voilà, sur des animations liées à l'environnement ou au développement durable. C'est très varié. C'est très, très varié.
Et est-ce que vos actions portent leurs fruits ?
Oui, par exemple, ça fait une dizaine d'années qu'on anime des clubs nature pour enfants. Et en fait, là, on avait des enfants qui arrivaient un petit peu à l'âge limite qui nous ont demandé de créer des clubs nature, mais plutôt pour eux, jeunes, enfin collégiens. Donc du coup, maintenant, on a un club ado, donc c'est la deuxième année, avec des jeunes, mais des anciens enfants, on va dire, qu'on avait sur les clubs nature. Donc oui, ça porte ses fruits.
Et vous êtes présent du coup au Forum du Rage, dans quel but ?
Eh bien justement, présenter le Club Nature Ado, pourquoi pas créer des partenariats avec d'autres structures pour développer l'action jeunesse sur les thématiques environnementales, voilà. Ça peut être plein de choses.
Et comment se porte la biodiversité en Mayenne ?
Je ne suis pas scientifique, hein, mais on va dire globalement... bien, pas bien, ça dépend. Voilà, il y a plein d'actions qui sont mises en place pour protéger la biodiversité. Après, il y a encore plein de choses à faire. Et si on veut préserver notre environnement pour les générations futures, il y a plein d'actions à mettre en place.
Sur votre page Facebook, on a vu qu'une bénévole du CPIE a découvert un papillon exotique jamais vu dans les pays de la Loire. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une bonne chose ou non ?
Alors, comme je le disais, je suis pas scientifique, donc j'ai pas assez de recul. Là, on est en train de voir, nous, on peut pas encore porter une analyse précise là-dessus. En tout cas, il va falloir faire des recherches pour voir quelle était la zone de répartition de ce papillon-là. Est-ce qu'il remonte à cause du changement climatique ou pas ? Voilà, il y a plein de données à prendre en compte. Donc on peut pas dire que pour l'instant que c'est à cause du changement climatique.
Et comment on peut adhérer du coup au CPIE ?
Alors vous pouvez aller sur notre site internet, là vous pouvez adhérer directement à la page adhésion, je crois, à voir. Et puis sinon vous venez au CPIE, discuter avec nous, échanger et puis voir sur quoi vous voulez partir, adhérer, juste adhérer financièrement ou participer activement aux actions de l'association.
D'accord, bah merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Je vous propose de laisser le bocage mayennais, sa faune et sa flore précieuse pour parler d'ailleurs avec Leïla et Lucie.
Étudier à l'étranger est devenu courant chez les jeunes, un rêve pour beaucoup d'étudiants français, mais souvent, passer du rêve à la réalité est plus compliqué qu'il n'y paraît. Se retrouver à des centaines, voire des milliers de kilomètres de ses proches et de son pays d'origine,
ou son propre niveau de langue sont des freins pour beaucoup de personnes. Mais pourtant, partir étudier à l'étranger représente l'occasion de vivre une expérience unique dont vous vous souviendrez toute votre vie. Alors, si vous êtes réticent ou hésitant, voici toutes les bonnes raisons de s'envoler vers un autre pays. Étudier à l'étranger, ça représente de nombreux avantages. Bien sûr, le premier, c'est l'apprentissage d'une nouvelle langue. Si tu veux devenir bilingue, fonce. Tu seras en immersion totale dans un pays dont la langue te sera étrangère. Donc tu auras l'obligation de pratiquer cette langue et de communiquer. On arrive justement à un autre avantage. En étant seul, tu pourras acquérir une indépendance et une autonomie et par la même occasion, mieux te connaître. Un voyage à l'intérieur de toi-même, quoi. Tu ne seras sûrement pas seul, ne t'inquiète pas. Tu retrouveras plein d'autres étudiants de tout horizon, dans le même cas que toi. Alors, prépare-toi à faire des rencontres inoubliables et à nouer des nouvelles amitiés qui te feront énormément évoluer sur un plan humain. Une expérience comme celle-là, c'est également et surtout un énorme boost pour ton CV. Et ça te permettra de trouver un travail beaucoup plus facilement. D'ailleurs, si tu es perdu dans ton orientation, ça peut être aussi un moyen de prendre du temps pour réfléchir et au final, pour préparer ton avenir et trouver ta voie. Tu l'auras compris, étudier à l'étranger, c'est bénéfique à la fois sur un plan scolaire, professionnel, mais aussi personnel. Et si tu as peur d'être ridicule à cause de ton niveau de langue ou de ton accent, et si tu redoutes de ne pas pouvoir communiquer ou de te faire comprendre à cause de ça, ne t'en fais surtout pas, de toute façon, c'est là-bas que tu apprends. Alors moi, j'ai qu'une seule chose à te dire, saute le pas. Justement, aujourd'hui, nous avons avec nous Leïla, qui est partie avec un dispositif pendant 3 semaines à Malte et qui compte repartir pour une année aux États-Unis après son bac. Bonjour Leïla.
Bonjour.
Alors Leïla, tout simplement, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir à l'étranger ?
Je sais pas, ça m'attire, c'est différent, il y a de différentes cultures, les paysages, découvrir, la découverte, j'aime bien.
Est-ce que tu peux nous parler rapidement des dispositifs par lesquels tu passes pour partir ?
Alors, pour partir à Malte, je suis partie 3 semaines avec EF, qui est un organisme qui fait beaucoup de pubs sur Instagram. Du coup, j'ai été un peu influencée, j'avoue. Et c'est vraiment cool. Franchement, ils ont été adorables. Ils sont vraiment géniaux. Et mon deuxième organisme pour l'année prochaine que j'ai choisi, c'est PIE. Et là, je l'ai vraiment choisi en fonction de mes goûts, par rapport au lycée, surtout à la destination aussi, parce qu'ils sont spécialisés dans la destination que j'ai choisie, qui est les États-Unis. Du coup, voilà.
Est-ce que tu pourrais nous parler de ta première expérience du coup à Malte, si t'as rencontré des difficultés ou quelque chose comme ça ?
C'est une aventure qui est assez compliquée, surtout déjà de se décider à partir. Je suis partie 3 semaines, comme je l'ai dit. C'est une aventure de fou, vraiment. Quitter ses parents aussi, être loin, toute seule, avec des gens que je connais pas,
de toute origine,
voilà. Du coup, c'est vraiment bizarre, mais c'est vraiment génial de découvrir d'autres cultures, d'autres façons de vivre. Ça a vraiment été une expérience de fou.
Et pour les États-Unis, qu'est-ce que tu attends d'une année comme celle-là ? Tes objectifs, c'est lesquels ?
Mon premier objectif, c'est de ressortir bilingue, déjà. Ça, c'est un expo. Je veux trop. Et ensuite, être autonome, découvrir... apprendre de nouvelles choses pour ressortir grandi et plus mature aussi. Voilà.
Pourquoi justement ces destinations Malte et les États-Unis ?
Malte, ça fait rêver. C'est une île, il fait beau, l'eau elle est belle. Enfin, quoi demander de mieux ? La majorité a 17 ans, c'est encore mieux. Donc voilà. Et les États-Unis, le rêve américain. C'est un peu cliché, mais c'est un peu ça. Et puis je veux aller voir si c'est vraiment vrai, le rêve américain, et si tout est vraiment en grand. Donc voilà.
Pour Malte, est-ce que tu aurais une anecdote à raconter ou un meilleur souvenir ?
Une anecdote, j'en ai une. Alors pendant mon séjour, c'était pendant la période du Covid du coup. Et à la fin de mon séjour, on nous annonce qu'il y a un cas contact et qu'on doit tous être confinés dans nos chambres. On est 4 par chambre dans un hôtel. On doit tous être confinés. Pendant 2 jours, on est restés et on était pestiférés. On nous transmettait notre nourriture par la porte de très très loin. Les bouteilles d'eau, pareil. C'était vraiment une expérience de ouah. Mais du coup, on nous a rajouté en plus une fille. On était 5 dans la chambre avec une mini fenêtre. C'était vraiment... horrible, mais bon, on a bien rigolé et puis on a fait connaissance avec la nouvelle personne, qui était une tchèque d'ailleurs, que je fais coucou si elle écoutera cette vidéo, mais c'était vraiment cool, on a fait un Uno avec elle d'ailleurs, si vous voulez l'expérience.
Et justement, une fois là-bas, qu'est-ce qui t'a le plus choqué ou étonné?
Que je suis devenue sociable. Alors, j'ai découvert que je pouvais devenir sociable avec les gens et que les gens étaient super sympas. Et ils ne vivaient pas du tout comme chez nous, vraiment. Ils sont tous cool, ils ne se prennent pas la tête, ils ne jugent personne. Et en France, on juge beaucoup, en fait. Je me suis rendu compte, c'est que là-bas, bah, il n'y a pas de prise de tête. Tu t'habilles comme tu veux, on te regarde pas mal. Et ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment génial.
Et tu comptes partir un an, du coup, aux États-Unis. Qu'est-ce que tu appréhendes de cette année, justement?
Ce que j'appréhende, 10 mois sans mes parents, 10 mois sans voir personne, d'être toute seule, comment je vais me débrouiller en anglais dans mon lycée américain. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Parce que je suis vraiment nulle en anglais, pour le coup. Donc, je sais pas, on verra bien. Hein. Mais nouvelle aventure, donc à voir.
Si tu peux nous parler en termes de budget, toi, bah, c'est combien à peu près pour...
Pour un an aux États-Unis, c'est entre 10 et 15 000, sans option, on va dire. Et avec des options, ça peut monter jusqu'à 20, voire 30 000 euros. Après, il faut dire qu'on est dans une famille, qu'on va dans un lycée américain qui est payant. Ils nous emmènent en vacances. Enfin, voilà, ils nous font... Ils font tout pour nous, ils nous habillent. Enfin, donc après, c'est un peu normal. C'est un peu le même coût qu'en France pour une école, j'ai envie de dire.
Et quel conseil tu pourrais donner à un jeune comme toi qui hésiterait à partir?
Fonce. Fonce, c'est une expérience de malade. C'est un truc de fou. Et wow, tu rencontres des gens, mais oh, génial. Et puis, bah, tu prends maturité de ouf. Et après, tu ressors grandi. Ouais, grandi. Et waouh, c'est juste waouh.
Ok, bah merci beaucoup, Leïla.
Merci.
Waouh, je sais pas vous, mais ça m'a donné envie de partir. Merci les filles de nous avoir parlé d'ailleurs. Et bravo Leïla pour ce projet ambitieux à ton âge, c'est assez impressionnant. Tu as souhaité nous parler d'un autre sujet aujourd'hui. Il n'y a pas que les États-Unis qui t'intéressent. C'est l'heure de l'instant lutte contre les discriminations.
Oui. Alors, les discriminations sociales, un combat du moment pour beaucoup de personnes. Oshi est l'une d'entre elles. Ah oui, c'est pas une chanteuse? Oui, c'est bien une artiste. Elle a sorti de nombreux albums depuis 2018. Elle a eu un succès fou avec la chanson « Ta marinière » et aussi « Amour censure » qu'on a beaucoup entendu sur de nombreuses radios. Alors, pourquoi Oshi? Elle connaît bien le mot « discrimination », surtout sur son physique. Les chroniqueurs ne se sont pas gênés pour l'incendier. Tous les chanteurs et chanteuses sont beaux et sublimes et sont parfaits pour mettre un poster. Mais qui voudrait d'Oshi en poster dans sa chambre? C'est ce qu'a déclaré un chroniqueur radio. Et dans les magasins, on en parle? La Fnac a caché le visage d'Oshi sur chacun de ses albums dans un des magasins de Paris. Bon, l'enseigne a dit qu'il s'agirait d'une erreur, qui n'est pas volontaire bien sûr. Oshi et ses fans ont réagi et en disant que c'est trop énorme pour être une maladresse. Le mot « discrimination » est le début de sa carrière. Il y a 6 ans, elle a subi une agression homophobe. Soi-disant, une personne lui aurait dit qu'il considérait que sa vision de l'amour était plus juste et plus adéquate que celle de Oshi. Alors arrive son combat. Elle chante pour la lutte contre le sexisme, l'homophobie, l'homosexualité et les LGBT+. Les LGBT+, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les minorités d'orientation sexuelle et d'identité de genre, comme les gays, les lesbiennes, les transgenres. La chanson « Ta marinière » parle de l'amour en général et pas spécialement que des hommes ou que des femmes ou des deux personnes des deux sexes. Elle parle et met vraiment en valeur l'amour universel. Le soir des Victoires de la musique, en 2020, Oshi a fait monter sur scène sa copine pour l'embrasser devant plus de 2,5 millions de téléspectateurs. C'est aussi montrer qu'elle défend les LGBT+. Elle vient souvent sur scène avec le drapeau LGBTQ+, comme symbole de soutien à sa communauté. Elle s'est aussi attaquée à la manif pour tous avec la PMA qui, pour elle, remet en question l'amour universel. Une solution pour des personnes rejetées de leur cocon familial à cause de leur orientation sexuelle ou identité de genre. Il y a une association qui s'appelle Le Refuge. Et sinon, en Mayenne, il y a l'association La Gomme 53. Alors, l'homophobie dénoncée dans la chanson Amour Censure à écouter dès maintenant.
Mes sentiments, surtout ne rien dire et faire semblant. Être à part, un peu penchant, au bout du navire, je coule doucement. Maman, désolée, je vais pas te mentir. C'est dur d'effacer tout ce qui m'attire, un peu dépassé par tous mes désirs.
pas si vrai, j'ai poussé de travers. Je suis une fleur qui se bat entre deux pierres. J'ai un cœur niqué par les bonnes manières. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai ta main un jour, c'est sûr. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Qui je suis vraiment, faire taire la rumeur, les mots sont tranchants, se mentir à s'arracher les dents, il cherche un docteur, on souffre sans être souffrant. Maman désolée, j'ai pris tes calmants, c'est pas que je voulais partir mais c'est violent, je voulais juste dormir un peu plus longtemps. Papa t'inquiète, j'ai appris à courir. Moi aussi je veux une famille à nourrir. On s'en fout près de qui je vais m'endormir. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai ta main un jour c'est sûr. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai sa main un jour c'est sûr. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Il n'y a que d'amour sincère.
Les enfants, c'est pour un homme et une femme.
Il n'y a pas d'amour sincère.
Ce n'est absolument pas pour des homosexuels.
Il n'y a que de l'amour sincère.
Ils ont plus de gays à la télé, donc les gens se posent des questions sur eux-mêmes. Ça se propage en fait, comme une maladie qui se propage.
Et puis alors, avec des chiens, puis avec des chats, des singes, et puis quoi après?
Alors disons que ça fait partie du mal parce que ça ne va pas dans le sens de l'amour qui a été donné par Dieu entre un homme et une femme.
De retour dans l'émission L'Instant Jeune avec les filles en chantier citoyen Argent de Poche. On l'a entendu pendant le micro-trottoir, on imagine souvent les jeunes les yeux rivés sur leurs écrans. On entend souvent que les smartphones est le prolongement de leurs bras, mais je pense surtout que la vie virtuelle est le prolongement de la vie réelle. Ok, sur la multitude de contenus qu'on peut trouver sur Internet, il y en a certainement des moins intéressants que d'autres, ça je l'avoue. Mais ne blâmons pas la totalité du numérique pour les fake news et les idioties que ça peut contenir. Non, on va se concentrer plutôt ici sur les propositions inspirantes qu'on peut y trouver. Les filles nous ont préparé un quatuor de comptes Instagram à suivre. Elles vont nous dire pourquoi.
Si tu veux suivre une page Instagram sur le sport, alors cette page est faite pour toi. Elle s'appelle Macosport et c'est une page spécialisée sur le triathlon, la natation et les personnalisations pour les clubs français. Elle met en valeur ses posts, le matériel de qualité conseillé pour réaliser ses meilleures performances. Mais elle publie aussi les performances de plus grands athlètes comme la Coupe d'Europe de triathlon à Barcelone et l'Aqua Challenge de Paris. Mako participe à aux nombreux événements sportifs comme le Aqua Challenge qu'elle retranscrit dans ses posts. Elle anime son fil d'actualité avec des challenges de danse en combinaison pour nager. Tu peux aussi les retrouver sur TikTok, YouTube et Facebook. Ils ont d'ailleurs une boutique en ligne si tu veux aller voir. Il y a de superbes trucs. Reste à l'affût pour leur prochain poste sportif.
Alors moi, je voudrais vous parler d'un compte Insta super positif, My Better Self. Et celle qui se cache derrière ces posts, c'est Louise Aubéry, une étudiante de Sciences Po de 24 ans. Elle, ce qu'elle prône, c'est avant tout le body positive. En gros, avec ce concept, tous les corps sont beaux. Louise, elle est hyper engagée pour la cause féminine et son compte, il est surtout axé sur l'acceptation de soi. Elle veut absolument contredire ce que la société veut nous laisser penser. Moi, perso, j'ai découverte avec un post qui a fait le buzz, dans lequel elle parlait de la précarité menstruelle, et après ça, j'ai directement suivi. En plus de ça, elle n'est pas que sur Instagram, mais elle a aussi une chaîne YouTube sur laquelle elle traite des mêmes sujets. Donc son compte, il est super inspirant, alors franchement, je te conseille d'aller jeter un coup d'œil.
Moi, j'ai choisi de vous parler de Jordan, plus connu sous le pseudo de 16 May.
Il compte plus de 1 million d'abonnés sur TikTok. Vous pouvez aussi le retrouver sur Instagram. Il vous partage plein de recettes super appétissantes et très caloriques. Il reproduit vos burgers et sauces McDo préférées, vous concocte des plats simples et rapides à faire, à la portée de tous, et aussi des recettes spéciales étudiantes.
Alors moi, je vais vous parler de Carla Valette, une étudiante en 5e année de médecine qui s'est lancée sur TikTok. Elle a actuellement plus de 2,5 millions d'abonnés. Carla Valette poste régulièrement de courtes vidéos pédagogiques. Elle insiste sur le fait que le but de ses vidéos est de faire comprendre de manière simple et sans tabou tel ou tel mécanisme. Elle explique qu'on l'interroge beaucoup sur la sexualité, par exemple. Elle essaie de varier le contenu et de s'adapter à ses abonnés. Elle nous partage également ses connaissances en matière de santé. Son contenu est accessible à tous. Si vous vous posez une question, n'hésitez pas à le lui demander sur son compte TikTok, carla.valette.
Merci les filles, c'était un plaisir de passer une dizaine d'heures avec vous. Vous avez produit un excellent travail cette semaine, en peu de temps, et cette émission en est la preuve. J'espère que nos auditeurs et nos auditrices l'ont apprécié, sachant que les filles n'avaient jamais fait de radio avant. Donc vraiment, merci beaucoup et félicitations. J'espère que ce chantier radio vous aura servi, que ça a été un bon souvenir et que ça vous aura appris beaucoup. Moi, je suis persuadée que cet exercice est un bon moyen de montrer les compétences, de monter en compétences sur la recherche d'informations, sur l'association de ses idées et la prise de parole. D'ailleurs, l'émission L'Instant Jeune est diffusée tous les mois. C'est donc possible de s'engager bénévolement, ponctuellement ou sur la durée pour écrire et enregistrer de la matière tout au long de l'année. Donc un excellent moyen de s'entraîner pour les examens, pour le grand oral du bac par exemple, ou d'autres entretiens. Et tout simplement aussi de s'éclater, parce que je pense qu'on a passé toutes et tous un bon moment. Si ça vous tente donc, venez me retrouver à l'Info Jeune de Mayenne Communauté. C'est la fin de cette émission. Encore merci à vous, Leïla, Lucie, Mathilde et Romane. Cette émission a été uniquement réalisée par des personnes faisant partie des 11,7 millions de Français et Françaises âgés de 15 à 29 ans. Yes. Et si vous avez entendu que des voix féminines aujourd'hui, réjouissons-nous. Nous étions accompagnés également de Valentin à la technique. Sans quoi, tout ça n'aurait pas été possible quand même, parce qu'il a des compétences qu'on n'a pas, ça c'est sûr. Donc un grand merci à toi. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de L'Instant Jeune. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée.